Bonjour et bienvenue sur France Culture en cet après-midi de dimanche, il est 16h. C'est le carême protestant qui vous retrouve, les conférences du carême protestant avec le pasteur Laurent Schlumberger de l'Église protestante unie de France. Il nous propose une série d'émissions intitulée « Du zapping à la rencontre » et pour cette quatrième conférence, il nous propose de nous intéresser aux mobilités dans l'existence et ses potentialités.
Depuis un mois, nous parlons de mobilité au pluriel. Que les êtres humains soient mobiles n'est vraiment pas une nouveauté. Mais ces mobilités se multiplient, s'accentuent, s'accélèrent et se combinent au point qu'elles sont peut-être en train de changer de nature ou encore de sens. La mobilité ne constitue plus seulement une phase temporaire entre deux situations plus durables de stabilité, par exemple lorsque je change de domicile ou de métier. De période transitoire entre deux états stables, la mobilité semble être devenue une sorte d'état permanent. Nous avons évoqué d'abord les mobilités dans l'espace. Subies ou choisies, elles prennent des traits aussi différents que ceux des migrations, de nos déplacements quotidiens, du tourisme et plus généralement de l'explosion des transports. Ces mobilités géographiques semblent être devenues d'autant plus importantes que notre espace global s'est comme restreint. Nous avons pris réellement conscience, et c'est assez récent, de ce que notre monde est limité, fini et en quelque sorte plein. Il n'y a plus de terre vierge, plus d'ailleurs disponible pour inventer un nouveau monde. À l'intérieur de ces limites, auxquelles nous semblons désormais nous heurter, nos mobilités deviennent fébriles. Nous avons ensuite exploré les métamorphoses du temps. Il nous est devenu plus difficile de nous tourner ensemble vers le passé, pour en faire une lecture partagée. L'histoire, élaborée en débat mais en commun, est toujours plus remplacée par la concurrence des mémoires partielles et subjectives. Quant à l'avenir, que l'on parraine à guerre de couleurs volontiers encourageantes, peut-être trop radieuses mais au moins mobilisatrices, il est devenu terriblement opaque. Il est plus à craindre qu'à espérer. Le passé est compliqué, l'avenir peu engageant, reste le présent. C'est à peu près notre seul horizon, dans lequel il faut par conséquent tâcher de tout entasser. Et pour cela, être sur tous les fronts à la fois, de plus en plus actif, sans cesser d'accélérer. L'espace, le temps, la semaine dernière enfin, nous avons évoqué les mobilités dans la culture. Les cultures ont presque toujours été poreuses. Les musiques, les mythes, les techniques ou les langues ont toujours circulé entre elles en se frottant l'une à l'autre. Mais c'est une sorte de gigantesque brassage à l'échelle du monde qu'il s'agit de nos jours, prodigieusement démultiplié et accéléré par la numérisation des échanges. Sans doute est-ce pour le meilleur, sous l'angle des métissages. Peut-être est-ce aussi pour le pire, sous l'angle de l'uniformisation, et du coup, des réactions identitaires que cette globalisation culturelle provoque par réaction. Le philosophe et sociologue Zygmunt Bauman a forgé une expression qui exprime bien cette combinaison de mobilités diverses qui s'entraînent mutuellement. Une métaphore qui a connu et qui connaît un grand succès parce qu'elle est très parlante. Il dit que notre société est devenue liquide, que notre vie est devenu liquide. Le mot « société » a d'abord désigné un groupe aux relations durables et très étroites. On parlait de société d'amis, de société savante, de société de bienfaisance. Puis le mot a pris une tournure économique pour désigner des groupes de personnes associées dans un projet aux intérêts financiers communs. Puis la signification du mot s'est étendu à l'ensemble d'une vaste communauté humaine, ce qu'on appelle la société. Ce glissement de sens a été possible parce que, sauf exception, notamment les périodes révolutionnaires, la société, au sens large donc, était marquée par une grande stabilité des rôles, des statuts, des classes. Son organisation était guidée par une recherche de stabilité très forte, parfois étouffante pour l'individu. La grande affaire était d'y trouver sa place, puis de la conserver ou de l'améliorer patiemment, ou bien, si l'on était misérable, relégué ou rebelle, de parvenir à changer de place. Notre société, et donc notre vie, dit Baumann, sont devenues liquides. Les diverses mobilités se combinent pour en faire un milieu toujours plus mouvant, un réseau et non plus une structure, un flux sans fin de connexions, de déconnexions et de reconnexions. Celui qui est adapté à cette société liquide évite de se laisser enfermer dans un seul rôle, un seul statut, un seul métier qui demain pourrait être dépassé. L'important n'est-il pas d'être réactif et même proactif, capable d'adaptation, d'initiative, de résilience, de flexibilité? Il faut savoir se saisir des opportunités qui surviennent, guetter celles qui pourraient se présenter, sans jamais se laisser définitivement happer par une seule. Il faut être ici, prendre part à une réunion par exemple, et en même temps là-bas, répondre à ses SMS par exemple. Il faut être avec ceux-ci sans cesser d'être disponible pour ceux-là. Dans une société et une vie liquide, l'important est de bouger, sinon on coule. Et donc les projets sont flottants, les apprentissages sont plus souvent mis à jour, la durée des postes d'une brillante carrière diminue, les familles se recomposent, les produits nouveaux chassent les produits dont l'obsolescence est programmée, l'attention papillonne, les expériences de toute nature doivent sans cesse se renouveler. Nous rêvons toujours plus notre vie comme une succession de nouveaux départs.
Sleeping on a midnight lake, we homeless and we homeless and we moonlight sleeping on a midnight lake, and we homeless and we homeless and we moonlight sleeping on a midnight lake, and we homeless and we.
Nous rêvons toujours plus notre vie comme une succession de nouveaux départs. Voyez les émissions télévisées consacrées à tous les relookings possibles et imaginables, les méthodes pour repartir à zéro, les conseils pour enfin devenir soi-même, les modes managériales axés sur le changement permanent, les born again qui ont le vent en poupe au sein de toutes les religions, les partis politiques qui se transforment en mouvement. À ce sujet, songeons tout simplement au dernier épisode politique important en France, il y a un an, structuré autour de l'éclosion soudaine d'un mouvement, en marche, qualifié non plus par un but, mais par la mobilité elle-même. Parler de vie liquide n'est donc pas seulement une manière de décrire des évolutions sociales. Notre société est de plus en plus mouvante et nous y sommes toujours plus mobiles. C'est aussi une expression qui dit le modèle auquel nous essayons individuellement de nous conformer. Il nous faut être mobile. La mobilité est une injonction. Autrefois, il était recommandé, et vertueux, d'être fidèle toute sa vie à ses choix, de rester inébranlable dans ses convictions, de faire toute sa carrière dans la même maison. Aujourd'hui, cette stabilité est suspecte. Être stable, n'est-ce pas faire preuve d'immobilisme, de rigidité? Regardez l'idéal que l'on propose aux enfants, donc aussi à leurs parents. Le premier long-métrage d'animation produit par les studios Walt Disney en 1937 racontait l'histoire de Blanche-Neige, cette jeune fille qui surmontait, par sa ténacité et surtout par l'intervention miraculeuse d'un prince, tous les obstacles qui l'empêchaient de devenir ce qu'elle était déjà, une princesse. À la suite de quoi, ce prince et Blanche-Neige vivaient éternellement dans leur château. Difficile d'imaginer plus stable. L'un des tout derniers longs-métrages d'animation des mêmes studios, 80 ans plus tard, raconte l'histoire d'une lapine qui parvient contre tous les déterminismes à devenir son antithèse, c'est-à-dire un policier intrépide, redouté et admiré. Et la chanson du générique de fin de ce film, Zootopia, et ce titre souligne bien la dimension idéale du film, cette chanson s'appelle « Try Everything », tout essayer. Nous sommes passés d'un idéal à l'autre. D'un idéal de stabilité au milieu des siens, à un idéal de mobilité dans une ville-monde. Ce qui est bon, ce qui est bien, c'est de multiplier les expériences. La vie bonne, c'est celle qui permet de diversifier ce que l'on pourrait appeler les essais de soi. Notre respect, voire notre admiration, vont aux personnes qui ne sont pas les êtres d'une seule préoccupation, d'une seule dimension, mais qui savent passer d'un champ à l'autre, qui sont à l'aise dans des mondes différents, qui conjuguent plusieurs talents, plusieurs compétences, successivement et plus encore, simultanément. Nous admirons, parfois jusqu'à la fascination, les personnes qui vivent plusieurs vies en une seule. Pourquoi ? Je crois que cela tient à ce qui est le moteur même de notre civilisation occidentale, dans ces périodes modernes et contemporaines, la recherche de l'autonomie. Depuis les XVIe et XVIIe siècles, notre modernité est caractérisée par une volonté d'émancipation, c'est-à-dire la conquête progressive de notre autonomie. L'autonomie, c'est ne pas se voir imposer extérieurement sa condition. C'est être le sujet de soi-même et non pas un sujet assujetti à un autre. C'est se donner tous ensemble les lois qui nous régissent. L'inverse extrême de l'autonomie, ce serait l'esclavage, dans lequel un autre dispose entièrement de moi. La démocratie moderne est à la fois le fruit et le moyen de cette conquête d'autonomie. Or aujourd'hui, ce désir d'autonomie, ce désir de liberté partagée, devient souvent un rêve d'indépendance totale. Non seulement je veux pouvoir affirmer toujours plus mon « je » de sujet, mais je veux le faire sans être limité par le « je » des autres. L'accent se déplace du citoyen, inséré dans un corps politique tissé de solidarité, comme par exemple la sécurité sociale à laquelle il est affilié, vers l'individu délié, maîtrisant toujours plus sa propre prévoyance par l'assurance qu'il choisit de souscrire, par exemple. Le peuple citoyen peut bien être souverain. Désormais, le client est roi. Et le client, c'est moi. Je veux, donc j'ai droit. Et ce droit est plus souvent qu'à son tour un droit à, et non plus seulement un droit de. Les exigences collectives sont de moins en moins opposables à ma volonté individuelle. Il ne s'agit plus tant de décider dans le champ du commun de notre destin collectif. Ce que je veux, c'est être l'auteur de ma vie.
Tonight my bag is packed. Tomorrow I'll walk these tracks that'll lead me across the border. Tomorrow my love and I will sleep neath all burnt skies somewhere across the border.
Être l'auteur de sa vie. Faut-il se réjouir de cette évolution vers une vie toujours plus marquée par la mobilité, pour explorer toutes les potentialités de l'existence, ou faut-il s'en inquiéter ? Faut-il y voir une quête légitime ou une fuite ? Mais de quoi ? On connaît le jugement entier et sévère de Pascal. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Les hommes aiment tant le bruit et le remuement, car le divertissement les détourne de penser à soi. C'est ce que Pascal écrit, mais nul n'est obligé d'être pascalien au point de voir le fait de garder la chambre comme le plus enviable des idéaux. Aucun d'entre nous ne souhaite être assigné une fois pour toutes, que ce soit à une place, un rôle ou un groupe. Aucun d'entre nous, me semble-t-il, ne souhaiterait renoncer à cette mobilité accrue de l'existence qui est synonyme d'une liberté plus grande, d'une capacité plus large à conduire sa propre vie. D'où vient alors ce sentiment que cette mobilité a aussi quelque chose d'épuisant, de malsain, de ravageur? Pour y voir plus clair, faisons un pas de côté à l'aide d'une vieille notion bien oubliée, alors qu'elle désigne une réalité très présente aujourd'hui, l'acédie, A-C-E-D-I-E, acédie. Ce terme d'origine grecque a été repris par les premiers moines chrétiens pour décrire un ensemble de tendances, voire de symptômes, qu'ils observaient en eux-mêmes et qui les faisaient beaucoup souffrir au point de les menacer dans leur choix d'existence même. Ce choix d'existence était radical, bien sûr. Une vie centrée sur la prière persévérante, à l'écart de la vie sociale ordinaire, en général au désert. Or, ces premiers moines, qu'on appelle donc les pères du désert, avaient remarqué qu'ils étaient fréquemment assaillis, en plein cœur de la journée, par des bouffées d'instabilité. Ils se sentaient soudainement à l'étroit, comme s'ils étouffaient dans une vie étriquée. Cela leur donnait une envie irrépressible de sortir, de bouger, de changer, d'aller autre part. Ils avaient brusquement l'impression de perdre leur temps, de passer à côté des choses importantes, de gâcher leur vie, de devoir essayer autre chose. À quoi bon rester là et persévérer? Au fond, la vraie vie était ailleurs. Et ce sentiment, parfois violent, cette acédie, provoquait deux conséquences qui me sont comme les deux faces d'une même médaille. D'un côté, une espèce d'agitation, vaine et forcément insatisfaite. D'autre part, un abattement ou un dégoût, puisque tout semblait devenir absurde. La suractivité et la dépression. La suractivité, c'est-à-dire une vie ultra-mobile, accélérée, dans laquelle on cherche à être en plusieurs lieux à la fois, à faire plusieurs choses en même temps, à rester hyper connecté. Et la dépression, ce sentiment si lourd et douloureux d'à quoi bon, de vide, d'ennui mortel, d'échec, de déconnexion. La suractivité et la dépression, ça ne vous dit pas quelque chose? Ce sont deux problèmes de santé publique parmi les plus importants aujourd'hui, qui se combinent par exemple dans ce fléau ultra-contemporain qu'est le burn-out. Et sans atteindre forcément ce niveau pathologique, l'agitation pour devenir soi et à la fois la fatigue d'être soi sont deux traits majeurs de notre société, ici et maintenant. Ces moines hyper-stables, qui avaient des tentations d'hyper-mobilité et de manière symétrique des phases d'affaissement profond, reprenaient pied non pas en en faisant plus ni en en faisant moins, mais en se recentrant sur le sens de l'existence qu'ils avaient choisi. Cela nous éclaire sur ce qui me semble être la question pertinente à propos de nos mobilités. Cette question pertinente n'est pas celle d'un excès de mobilité de notre existence, comme si la stabilité était en soi une bonne chose, pas plus que d'un manque de mobilité, comme si la mobilité était en soi désirable. La vraie question est celle du sens. Une existence marquée et de plus en plus marquée par des mobilités, pourquoi ? Alors, il nous faut ici reprendre les Écritures bibliques, que nous n'avons pas encore ouvertes aujourd'hui. À dire vrai, et au contraire des mobilités dans l'espace, dans le temps ou dans les cultures, ces mobilités dans l'existence dont nous parlons aujourd'hui sont très peu présentes dans la vie de tout un chacun telle que la Bible l'évoque. Certes, il est écrit dès la Genèse que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. La mobilité se faisant d'ailleurs plutôt en sens inverse dans les faits. Mais c'est à peu près tout. En revanche, deux motifs très marquants de mobilité existentielle sont présents d'un bout à l'autre des Écritures bibliques. Il s'agit de la vocation et de la sanctification. La vocation d'abord. Dieu a appelé Abraham et cet appel a bouleversé sa vie personnelle, conjugale, familiale, professionnelle, sociale, religieuse. Dieu a appelé Moïse et cet appel a eu des conséquences peut-être plus importantes encore, puisque cet appel englobait le sort concret et immédiat de tout un peuple et de chacun de ses membres. Dieu a appelé David, qui gardait les troupeaux de son père, pour en faire le roi emblématique d'Israël. Dieu a appelé Ésaïe, Jérémie ou encore Ézéchiel à devenir prophète. Il a appelé Amos de derrière ses troupeaux. Il a appelé Jonas par deux fois. Et Jésus a appelé un à un ses disciples, qui ont quitté la stabilité de leur métier et de leur famille pour le suivre. Le Christ ressuscité a appelé Paul, et toutes ses appartenances s'en sont trouvées renversées. Lui qui était si fier d'être hébreu, de la tribu de Benjamin, pharisien, défenseur zélé de la loi religieuse, a considéré tout cela comme des ordures à cause de Jésus-Christ. De manière chaque fois différente, ces vocations ont provoqué une transformation de fond en comble, un déplacement radical de l'existence de ceux qui étaient appelés. D'ailleurs, ces vocations s'accompagnaient parfois d'un changement de nom qui résume à lui seul cette mobilité constitutive d'une existence nouvelle. Abraham devient Abraham, Jacob devient Israël, Simon devient Pierre ou Saoul devient Paul. La vocation adressée par Dieu à un être humain peut provoquer la plus profonde et la plus essentielle des mobilités, non pas seulement dans l'existence, mais de l'existence elle-même. Or, si les vocations que je viens de rappeler sont des épisodes remarquables, s'adressant à des personnages singuliers, un appel d'ordre comparable résonne dans la Bible pour des auditoires beaucoup plus larges, sous la forme de l'appel à se convertir. Les verbes utilisés dans les Écritures pour dire la conversion sont utilisés près de 800 fois, c'est dire leur importance. Ils signifient fondamentalement un déplacement, une mobilité. Cette mobilité, surtout en hébreu, est très concrète. Convertir, c'est revenir, retourner, changer. En grec, elle est plus conceptuelle et signifie plutôt « penser plus loin, changer d'avis ». Toujours, il s'agit d'un changement global et fondamental, comme lorsque Jésus, au début de son activité publique, proclame à qui veut l'entendre « Le temps est accompli, le royaume de Dieu s'est approché, changez radicalement, ou encore convertissez-vous, et croyez à la bonne nouvelle ». De même qu'une vocation spécifique peut être adressée à certains, la conversion est un appel qui s'adresse à tous. Elles sont toutes deux de l'ordre du changement, du mouvement, de la mobilité existentielle. L'une comme l'autre sont provoquées par un appel de Dieu, ou transmis de la part de Dieu. Elles sont proches de la notion de salut, qui s'exprime lui aussi sur le mode du déplacement, puisque le salut est une libération, une sortie de la captivité, un passage. Après la vocation ou la conversion, le second motif marquant de la mobilité existentielle dans les Écritures est la sanctification. Ce que ce mot évoque, c'est en quelque sorte l'élan impulsé par le mouvement premier de la conversion. La sanctification est un déplacement qui se prolonge et se déploie sur la lancée du salut. Par exemple, le peuple hébreu libéré d'Égypte apprend au désert à vivre dans la durée de la libération reçue. Ou les chrétiens, que le Nouveau Testament appelle d'ailleurs souvent les saints, sont encouragés à se comprendre comme un peuple en marche. Devenir saint, ce n'est pas vouloir devenir parfait, c'est être renouvelé par l'Esprit du Dieu vivant. C'est aller à la rencontre de celui qui déjà est venu et qui toujours à nouveau vient à notre rencontre et qui lui seul est saint en vérité. C'est pourquoi, très souvent, cette sanctification s'exprime sous les traits de la marche. Dans l'Ancien Testament, cette marche est par exemple celle du pèlerinage vers Jérusalem, c'est-à-dire la ville qui recèle le temple, ce souvenir de la demeure mobile de Dieu au désert. Dans le Nouveau Testament, cette marche est par exemple celle à la suite du Christ, lui qui est venu dans le monde, lui qui est notre Pâque, c'est-à-dire qui est en lui-même passage, lui qui nous précède et qui vient. Dans la relation avec Dieu, les mobilités sont donc partout. À la lumière des Écritures, plus qu'à vivre notre vie, nous pourrions dire que nous sommes appelés à marcher notre vie. Le début de la vraie vie, de la vie en abondance, c'est une sortie, une traversée, une libération, qui est le fruit d'une rencontre avec Dieu. Et la suite de cette vraie vie, son déploiement, son épanouissement, c'est une marche, un pèlerinage pour renouveler cette rencontre et en démultiplier les effets dans des rencontres avec les autres. Peut-être vous rappelez-vous qu'au début de cette série d'émissions, je vous disais qu'au fond, il y a trois dimensions dans les mobilités, qui se combinent et sans cesse se recombinent. Il y a la mobilité qui consiste à partir pour parvenir quelque part, parvenir à un but, c'est la mobilité comme moyen. Il y a la mobilité qui consiste à partir et repartir encore, c'est la mobilité comme fin en elle-même. Et il y a la mobilité qui est fruit de rencontres et qui permet des rencontres, chemin faisant. Ni seulement moyen, ni vraiment fin, elle est occasion. Occasion d'autre chose que d'atteindre un objectif prévisible, d'autre chose que de se nourrir de son propre mouvement, occasion d'un renouvellement imprévu et pourtant espéré, une rencontre, des rencontres porteuses de vie. Nous venons de le voir avec les métaphores de la marche, la mobilité est omniprésente et centrale dans les Écritures. Mais elle n'a pas son sens en elle-même. C'est une marche, une mobilité provoquée par une rencontre et tendue vers une rencontre. Le mobile de cette mobilité, c'est la rencontre. Et Dieu le premier se rend lui-même mobile pour ces rencontres. Pour poursuivre dans cette voie, je vous donne rendez-vous dimanche prochain. D'ici là, bonne semaine et bonne marche.
Ainsi s'achève cette quatrième conférence du carême protestant avec le pasteur Laurent Schlumberger de l'église protestante unie de France. Sachez que vous pouvez retrouver cette émission sur les sites franceculture.fr où trouver des renseignements pour revenir sur ces textes sur carême-protestant.org. Coordination de ce carême protestant, Brigitte Iselin, Antoine Sédoux et le pasteur Nathalie Chaumet, Michel Schaeffer pour la Fédération protestante de France, chargée de réalisation Anne-Laure Chanel, et la prise de son aujourd'hui, Claude Niort. Dans un instant, retrouvez le carême catholique en direct de Notre-Dame de Paris.